Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel, il est 14h30 à Goma et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. C'est le grand rendez-vous culturel de la région des Grands Lacs. Le festival Amani est annulé. Cela fait suite à une demande du maire de Goma, la capitale du Nord Kivu. Le festival a lieu depuis 10 ans. Au Bénin, le général Philippe Houndé-Nyon, interpellé hier à son domicile. Il était patron de la police nationale sous l'ancien chef d'État Boni Yayi, prédécesseur de Patrice Talon. Patrice Talon que l'officier critique régulièrement dans les médias et réseaux sociaux. La contestation au Mozambique. Venancio Mondlane, candidat malheureux à la dernière présidentielle, appelle à 3 jours de mobilisation. Hier, Maputo est resté calme, mais des manifestations ont été réprimées dans d'autres villes du pays. Il y a des morts. Le chercheur Didier Péclard, spécialiste de l'Afrique lusophone, est notre invité. Et puis la journée mondiale du diabète, une maladie chronique grave diagnostiquée chez 24 millions d'adultes en Afrique, selon l'ONU. Elle se traite avec de l'insuline, mais l'accès à cette hormone reste problématique sur le continent, et notamment parce que les laboratoires qui la produisent sont en situation de quasi-monopole. Le festival Amani est donc annulé. La 10e édition devait se dérouler ce week-end à Goma. Elle n'aura pas lieu sur décision du maire de la capitale du Nord Kivu, à Goma, Guillaume Thibault.
Devant le majestueux lac Kivu, l'heure est au démontage sur le site du festival. C'est via un communiqué officiel que le maire de Goma, Faustin Kapankaman, a demandé l'annulation de l'événement mardi en indiquant n'avoir pas été informé de l'organisation des concerts durant 3 jours. Guillaume Bissimouwa, le directeur d'Amani, a pris la décision d'annuler. Il rappelle que l'organisation s'est toujours faite en accord avec les autorités.
C'est une tristesse, niveau local, niveau provincial, niveau national. Cela se fait toujours dans des règles. Le fait de dire que, en tant qu'autorité, on n'était pas au courant, c'est pas vrai.
Avec un budget de 350 000 dollars et 400 000 dollars d'appui technique, le festival Amani est un pilier de l'activité culturelle de la région. Faire taire les armes via la musique, Guillaume Bissimouwa porte cette ambition et estime que malgré l'annulation, le festival Amani a un avenir.
Amani n'est pas mort, mais quand même, il y a un danger. Et je pense qu'on doit bien se mettre et regarder comment redonner un sourire, encore un avenir meilleur culturel à la jeunesse.
Annulé, mais toujours vivant, le festival Amani peut compter sur l'appui de musiciens de tout le continent africain, notamment Lokwa Kanza, Youssoufa ou encore Didier Awadi, signataires d'une lettre de soutien au festival. Guillaume Thibault, Goma, RFI.
Et à Kinshasa, pendant ce temps, des officiers ougandais font avec leurs homologues congolais le bilan de l'opération Shujaa. Opération conjointe déployée dans l'est du pays pour lutter contre le mouvement armé ADF il y a presque 3 ans, Pauline Azidi.
Cette réunion des experts a pour objectif de traduire sur le terrain les échanges qu'ont eus les deux présidents il y a quelques semaines. En effet, Félix Tshisekedi s'est rendu à Kampala à la fin du mois d'octobre et il s'est longuement entretenu avec Yoweri Museveni. Suite à cette rencontre au sommet, les experts des deux pays se sont déjà réunis une première fois à Beni, dans l'Est, dans cette zone particulièrement touchée par les attaques des ADF. Hier, ces mêmes experts ont peaufiné leur feuille de route et c'est cette feuille de route qui doit être présentée ce jeudi au chef d'état-major des FARDC. Son adjoint est présent pour cette réunion, tout comme le chef d'état-major de l'UPDF et l'ambassadeur ougandais à Kinshasa. Le calendrier est bien sûr important. Le 30 novembre, ce sera les 3 ans de cette opération Shujaa. Pour l'occasion aussi, une délégation de parlementaires congolais est actuellement en Ouganda, à Kampala. En attendant sur le terrain, les attaques des ADF se poursuivent. En 3 ans, les experts sécuritaires notent une évolution de leur zone d'action en fonction des résultats de l'opération conjointe. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
L'État français a-t-il eu un rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda? Une question sur laquelle le tribunal administratif de Paris doit se prononcer cet après-midi, alors que le président français Emmanuel Macron a reconnu en 2021 des responsabilités de la France dans le massacre de plus de 800 000 personnes en 1994. Un groupe de survivants souhaite aujourd'hui obtenir réparation. Paul Lorgerie, vous êtes au Palais de justice de Paris. Ce sont 2 associations ainsi qu'une vingtaine de rescapés qui ont saisi la justice administrative.
Oui, Nicolas, et il s'agit d'un recours assez inédit. Ici, ce ne sont pas des personnes qui sont visées, mais bien des institutions de la France. Déposée en avril 2023, la requête de 115 pages a pour but, je cite, « d'établir et juger les actes engageant la responsabilité de l'État français lors du génocide rwandais ». Alors, dans un premier temps, les requérants dénoncent un accord d'assistance militaire datant de 1975 entre Paris et Kigali, ainsi que l'aide apportée au gouvernement rwandais de l'époque, alors qu'un massacre de population se déroulait au vu et au su du monde entier. Ensuite, c'est la passivité de l'armée française déployée au sein de l'opération turquoise qui est pointée du doigt. C'est notamment lors du massacre de plus de 1000 personnes sur les collines de Bicécéro en juin 1994, lors duquel les militaires avaient tardé à intervenir. Alors cette requête, c'est un peu la requête de la dernière chance. En octobre 2023, la justice pénale française avait confirmé un non-lieu général dans l'enquête portant également sur l'inaction de l'armée lors de ce massacre. Un non-lieu sur lequel doit se prononcer la Cour d'appel de Paris le 11 décembre prochain.
Paul Lorgerie en direct du tribunal de Paris. En Mauritanie, le procès en appel de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz s'est ouvert hier à Nouakchott. L'an dernier, il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Sidi Yansané, hier, à peine le procès s'était-il ouvert que ses avocats ont déposé un recours auprès de la Cour qui a donné un avis favorable.
Oui, Nicolas, RFI a pu joindre Maître Taleb Riyar, membre du collectif d'avocats de Mohamed Oud Abdelaziz. Dès le début de l'audience à la chambre pénale de la Cour d'appel, la défense a pointé certains articles de la loi anticorruption sur lesquels se sont appuyés les juges pour condamner l'ancien président mauritanien. Mais pour Maître Riyar, les articles en question ne sont pas conformes à la Constitution. L'article 2, par exemple, qui indique, selon la défense, que cette loi anticorruption ne concerne que les fonctionnaires et ne peut s'appliquer à un chef d'État. Les conseils de Oud Abdelaziz se fondent également sur l'article 93 de la Constitution et affirment que celui-ci ordonne que seule la Haute Cour de justice a le pouvoir de juger le président de la République. Sur ces arguments, la défense a donc demandé une suspension des travaux de la Cour d'appel, le temps pour le Conseil constitutionnel de trancher sur la question. Et c'est cette demande finalement acceptée par la Cour qui a conduit à la suspension de l'audience d'hier, malgré les réticences des avocats de la partie civile que RFI n'est pas encore parvenu à joindre.
L'ancien directeur général de la police interpellé hier au Bénin. Selon nos sources, le général Philippe Oundé-Nyon a été arrêté à son domicile. Il était patron de la police nationale sous l'ancien chef d'État Boni Yayi, prédécesseur de Patrice Talon. Aucun commentaire officiel, mais on sait que depuis quelques mois, l'officier de police pourfend la gouvernance de Patrice Talon dans les médias et sur les réseaux sociaux. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
C'est chez lui, à la périphérie de Cotonou, qu'une unité de la police est allée l'interpeller sans incident ce mercredi. Son domicile a été perquisitionné et RFI apprend de bonnes sources que le général Philippe Oundé-Nyon est en garde à vue. Des rumeurs sur son interpellation circulaient 48 heures avant et son entourage avait accusé le pouvoir, dans un communiqué, de chercher à entraver son engagement pour les libertés individuelles. Le retour à la Constitution de 1990, modifié en 2021 par le pouvoir au nom des réformes politiques. Du coup, le général conclut que la réélection de Patrice Talon n'a aucun fondement constitutionnel. Fin de citation. Depuis quelques mois, Philippe Oundé-Nyon prend régulièrement la parole pour critiquer sévèrement la gouvernance démocratique du pouvoir. Il s'est exprimé sur les violences meurtrières enregistrées après les élections de 2019 et sur la fusion police-gendarmerie. Des positions perçues comme de la défiance et de l'outrage par les proches du pouvoir. Si on veut m'arrêter pour ça, avait dit le général, je suis prêt à me faire passer les menottes pour l'histoire. Fin de citation. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Le Sénégal a 3 jours des élections législatives anticipées. Une campagne un peu particulière pour le camp de Macky Sall. L'ancien président a certes choisi de revenir dans le jeu politique à la tête de l'une des principales coalitions d'opposition, Tacou Alou. Mais il n'est pas au pays, il fait campagne à distance depuis Marrakech où il est installé. Ça ne poserait aucun problème si l'on en croit son équipe, Léa Lisa Vesterhoff.
Nous sommes tout le temps en contact par téléphone, affirme Abdoumbo, l'un des cadres du parti de Macky Sall. Même son de cloche est le coordinateur de la campagne de Tacou Alou, Sédou Gueye, qui parle d'une présence digitale et vocale importante de l'ex-président qui, depuis le Maroc, lui parle plusieurs fois par jour et participe à toutes les réunions. Pour ses fidèles, l'absence de la tête de liste nationale ne porte donc pas préjudice à leur coalition. La stratégie a été adaptée, avec dans chaque département la tête de liste locale qui fait campagne sur le terrain. Le choix aussi de faire du porte-à-porte plutôt que des grands rassemblements, enfin de s'associer dans presque tous les départements du pays avec la coalition de l'opposition Sam Sakadou, emmenée par le maire de Dakar, une intercoalition qui doit servir à récolter plus de voix de l'opposition. Reste à savoir pourquoi Macky Sall a choisi de ne pas revenir au Sénégal battre campagne. L'ex-président ne s'en est pas expliqué. Pour le professeur de sciences politiques Maurice Soundiek Dion, un retour aussitôt du président sortant n'a pas été envisagé, car il risquait, je cite, de créer des tensions, alors que le Sénégal sort d'une période très difficile en matière de violation des droits et des libertés. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et toujours à propos de ces législatives sénégalaises, le ministre de l'Intérieur annonce par communiqué qu'il sera interdit de circuler d'une région à une autre sur l'ensemble du territoire à partir de samedi minuit jusqu'à dimanche minuit. Au Mali, la direction de la chaîne Joliba TV est convoquée cet après-midi devant la Haute Autorité de la Communication. La HAC donne ainsi suite à une plainte de son équivalent burkinabé. Le CSC, qui n'a pas apprécié que la dernière affaire de coup d'État dénoncée par Ouagadougou ait été remise en question lors d'un débat télévisé sur Joliba. Face caméra, Issa Kaoundjim avait estimé que cette affaire n'était pas crédible. Et lui aussi a désormais des ennuis. Hier, il a été placé sous mandat de dépôt. Le groupement patronal malien de la presse écrite appelle à la résistance face à toutes les velléités attentatoires à la liberté de la presse et d'expression. Et puis dans le centre du Mali, 4 corps calcinés ont été retrouvés hier à Nara. Selon des sources communautaires, il s'agit de 4 personnes enlevées par les forces maliennes et leurs supplétifs de Wagner lundi dernier. On est toujours sans nouvelles de 3 autres personnes qui avaient été enlevées la semaine dernière. Il est 13h42 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, en cette journée mondiale du diabète, on va parler des difficultés d'accès à l'insuline sur le continent. La COP29 est la fin hier du sommet des chefs d'État. Et les sports, suite aujourd'hui de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Ce soir, le Bénin reçoit le Nigeria au Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La journée mondiale du diabète, une maladie chronique grave dont souffrent 24 millions d'adultes en Afrique selon l'ONU. Mais on ne parle là que du nombre de personnes qui sont effectivement dépistées. Cause de cécité, d'insuffisance rénale, de troubles cardiaques et vasculaires, le diabète peut pourtant être traité. Il faut pour cela de l'insuline. Mais l'accès à l'insuline reste un problème majeur, Amélie Tullet. Et notamment parce que les laboratoires qui la produisent sont en situation de quasi-monopole.
Et Médecins sans frontières appelle justement à ce sujet les géants pharmaceutiques à prendre des mesures urgentes. 3 grandes sociétés, l'américaine Eli Lilly, la danoise Novo Nordisk et la française Sanofi, contrôlent la quasi-totalité du marché, font gonfler les prix et par conséquent restreignent l'accès des patients à l'insuline. Pourtant, Nicolas, on le rappelle, il y a plus de 100 ans, en 1921, à Toronto, au Canada, quand des scientifiques découvrent cette hormone, ils vendent le brevet pour $1 symbolique, justement pour que tous les diabétiques dans le monde aient accès à ce traitement qui leur est indispensable. MSF et de nombreuses autres ONG appellent donc les fabricants à baisser d'urgence les prix et ainsi à rendre immédiatement disponibles les stylos injecteurs d'insuline, plus faciles à utiliser et à transporter que les seringues, à $1 l'unité, 94 centimes d'euros. À titre d'exemple, actuellement, ces stylos sont vendus plus du double en Afrique du Sud. Nous ne demandons pas un geste humanitaire, précise Stéphane Besançon de l'ONG Santé Diabète, car à $1 l'unité, les fabricants continueront à faire des profits.
Le sommet des chefs d'État s'est achevé hier à la COP29 de Bakou, en Azerbaïdjan. Côté G20, peu de présidents avaient fait le déplacement. Place donc hier aux dirigeants africains et leurs délégations n'ont pas manqué de s'exprimer, Manon Chapelin.
Le sommet des chefs d'État aura été l'occasion pour les représentants africains de mettre en lumière l'intensification des catastrophes climatiques dans la région. Dans toutes les têtes, les inondations dévastatrices qui ont touché l'Afrique de l'Ouest ces derniers mois. Jean-Baptiste Avogimana de la communauté des pays est-africains en appelle à plus de solidarité internationale.
Le manque d'adaptation climatique en Afrique est plus ou moins une question d'infrastructure. Si vous installez par exemple au Nigeria les mêmes systèmes systèmes de contrôle des zones inondables que ceux disponibles aux Pays-Bas, alors beaucoup d'inondations n'auraient pas lieu en Afrique. Mais de fait, les infrastructures nécessitent des financements.
S'accorder sur le montant du fonds de financement climatique à destination des pays en développement, c'est justement l'enjeu principal cette année. Un minimum de 1 000 milliards de dollars serait nécessaire afin de compenser, entre autres, les pertes et dommages liés au changement climatique. Un engagement bénéfique à tous, affirme le conseiller de la République démocratique du Congo, Joseph Malassi.
Il y a des pays qui se comportent comme si, quand ça brûlera, eux, ils seront dans un frigo en train de se rafraîchir. On brûlera tous ou on survivra tous. Chaque dollar qui est investi pour guérir la planète, c'est fait pour des raisons qui nous sont tous profitables.
Les effets du changement climatique font perdre chaque année entre 7 et 15 milliards de dollars aux pays africains. Depuis 1850, le continent n'est pourtant responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Manon Chaplin, à Bakou, RFI.
Les sports du football avec les éliminatoires de la CAN 2025, cinquième et avant-dernière journée. 9 matchs sont au programme aujourd'hui. Ce soir, le Bénin reçoit le Nigeria au Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En effet, la capitale économique ivoirienne accueille les guépards béninois depuis le mois de juin, car le stade de l'amitié de Cotonou est en travaux, Youen Gourlet.
Le Félicia est devenu leur porte-bonheur. Les guépards béninois ont remporté leurs 4 matchs disputés cette année dans le stade du Plateau à Abidjan. Ils ont même battu les Nigérians vice-champions d'Afrique 2-1 lors des éliminatoires du Mondial 2026 au mois de juin. Cette fois-ci, le match compte pour les éliminatoires de la prochaine CAN au Maroc. Mais le capitaine béninois Steve Mounier, buteur en juin, se voit bien rééditer l'exploit.
Ah, mais le message va être le même qu'au mois de juin. Je me rappelle quand j'avais eu ce discours avec mes camarades, je leur avais donné l'exemple de mon ancien club. Quand j'étais avec le Stade Brestois, on a su tenir tête à de grosses équipes du championnat français. Et je leur avais dit que il faudra faire la même chose face à ce Nigeria, qu'on est capable de les regarder droit dans les yeux et essayer de donner notre maximum pour obtenir un résultat.
Si les supporters béninois n'ont pas encore rempli le stade abidjanais depuis les premiers matchs du mois de juin, quelques supporters des guépards seront présents. Certains ont fait le déplacement, comme Joachim Adjovi.
J'arrivais hier pour voir mon équipe nationale jouer les guépards. On ne sait pas ce qui se fait, mais le stade de la Côte d'Ivoire nous donne de la chance et on est content. Mais je crois que d'ici à mars, on aurait réglé le problème parce que notre stade de l'amitié est en travaux et c'est bien avancé.
En cas de nouvel exploit contre les Super Eagles, les Béninois compteraient 9 points et feraient un grand pas vers la qualification pour la prochaine CAN. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Bénin, Nigeria, à Abidjan donc à partir de 19h temps universel. À la même heure, le choc du jour à Bamako entre deux nations déjà qualifiées, le Burkina Faso et le Sénégal. Et puis la cinquième journée débute dans une demi-heure hein, avec Guinée équatoriale, Algérie, Lesotho, Centrafrique et Soudan du Sud, Congo. Tous les résultats dans Afrique Soir à partir de 18h30 temps universel. Anne Cantner, les grands titres de ce jeudi 14 novembre.
L'armée israélienne qui dit avoir frappé environ 30 cibles qualifiées de terroristes dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban. C'est un bastion du mouvement libanais du Hezbollah. 30 cibles au cours des dernières 48 heures. Dans ce contexte, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est à Téhéran. Raphaël Grossi a été reçu par le ministre iranien des Affaires étrangères, alors que la montée en puissance du programme nucléaire de l'Iran cristallise des tensions avec les pays occidentaux et inquiète aussi dans toute la région. Un match de football sous haute tension ce soir à Paris, France-Israël, dans un stade de France bien vide. 15 à 20 000 spectateurs seulement et de très très nombreux membres des forces de l'ordre autour et dans le stade, ce qui est très rare. Et puis toujours en France, au lendemain du réquisitoire dans le procès du Rassemblement National, soupçonné de détournement de fonds européens via des assistants parlementaires travaillant en fait en France pour le parti, au lendemain de la demande d'une peine d'inéligibilité contre Marine Le Pen, le mouvement d'extrême droite s'en prend à la justice et invoque la défense de la démocratie pour critiquer cette demande de peine, tout comme l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La contestation post-électorale se poursuit au Mozambique. L'opposant Venancio Mondlane, qui dénonce des fraudes massives lors des scrutins du 9 octobre, appelle à 3 jours de mobilisation. Hier, la capitale est restée globalement calme, mais de nouveaux rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes et on signale plusieurs morts. Didier Péclard, professeur de sciences politiques et directeur du master en études africaines au Global Studies Institute de l'Université de Genève, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Didier Péclard.
Bonjour.
3 semaines après la proclamation des résultats par la commission électorale, que diriez-vous de la situation aujourd'hui au Mozambique ? Est-elle révolutionnaire, comme le dit Venancio Mondlane, ou bien le verrouillage sécuritaire du pays est-il en train d'éteindre la contestation ?
Alors, on est certainement quelque part entre les deux. Il est difficile de dire exactement quel va être l'avenir de la contestation. Ce qui est sûr, c'est que la situation est très mauvaise, elle est très tendue. Il y a eu, comme vous l'avez dit, de nouveau des morts dans les dernières manifestations. Donc, on est à plus d'une trentaine de morts depuis le début. Le bilan pourrait être encore plus élevé. Maintenant, quant à savoir si la contestation électorale est en train de baisser ou pas, c'est un peu difficile de le dire. C'est vrai qu'il est probable qu'il y ait de moins en moins de personnes qui puissent aller dans les rues du fait de la répression policière également. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le sentiment de perte de légitimité du Frelimo déjà avant les élections et depuis les élections, celui-là ne va pas disparaître de sitôt.
Est-ce que des élections ont déjà conduit à de telles contestations ? Y a-t-il des précédents depuis la fin de la guerre civile ?
Oui, il y en a plusieurs et c'est une des raisons pour lesquelles la contestation est si forte après ce scrutin. C'est que déjà dernièrement, en automne 2023, il y avait eu des élections locales qui ont donné lieu aussi à des contestations très importantes à plusieurs endroits du pays parce que le Frelimo a été déclaré très rapidement vainqueur et que un certain nombre de partis d'opposition dénonçaient en fait plusieurs cas de fraude électorale. La situation actuelle fait aussi écho à celle de 1999, une des premières élections après la fin de la guerre au Mozambique, où là, de très nombreux observateurs internationaux et nationaux au Mozambique considèrent qu'en fait, c'est la RENAMO à l'époque, donc l'ancien mouvement rebelle qui a lutté contre le Frelimo pendant la guerre civile et qui est devenu premier parti politique d'opposition après la fin de la guerre, considère donc que la RENAMO avait gagné de fait les élections en 1999. Donc il y a une accumulation de scrutins très contestés au Mozambique qui explique aussi que celui de cette année, de 2024, soit si fortement contesté dans la rue et ailleurs.
Ça veut dire que l'aura du Frelimo est aujourd'hui en perte de vitesse.
Oui, très clairement. Le Frelimo est au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Le Frelimo, comme la plupart des partis arrivés au pouvoir suite à une longue guerre civile ou à une guerre de libération, ce qui a été le cas du Mozambique, mais aussi de l'Angola, on peut aussi inclure le Zimbabwe ou l'ANC, on constate que ces partis qui sont arrivés au pouvoir se voient comme les seuls détenteurs de la légitimité populaire, voire les seuls détenteurs, en fait, en quelque sorte, les seuls représentants possibles ou imaginables de la nation de leur pays, et c'est très fortement le cas pour le Frelimo, qui ne peut pas s'imaginer dans une autre position que celle d'être au pouvoir. Or, l'écart entre ce que le Frelimo pense être et la façon dont il est perçu dans la population n'a fait que d'augmenter sur fond de crise économique, sur fond aussi de promesses de développement économique très fort grâce aux gisements de gaz qui ont été découverts au nord du Mozambique, mais qui des promesses qui n'adviennent pas pour l'instant, et on a plutôt l'impression, ou c'est plutôt un fait, que l'écart entre les riches et les pauvres ne fait qu'augmenter.
La contestation est menée par un homme, Venancio Mondlane, appuyé par un petit parti, Podemos. Aujourd'hui, il se cache, il est à l'étranger. Quel est son crédit dans la population ?
Il semble avoir un soutien très très important de la part de la jeunesse, notamment donc de cette tranche de la population qui est née, d'ailleurs comme Mondlane est lui-même après ou juste après l'indépendance, mais il est aussi le soutien de la part des jeunes qui n'ont pas connu la guerre civile. Donc ça veut dire que le discours du Frelimo, qui est souvent basé sur la légitimité qu'il a acquise en tant que parti qui aurait gagné en quelque sorte la guerre civile, même si la guerre s'est terminée par un accord de paix, ne résonne pas de la même manière pour la génération actuelle qu'il a pu résonner pour les générations antérieures. Et Mondlane et Venancio Mondlane a réussi à obtenir un soutien très fort de la part des jeunes notamment et sur fond de crise économique. Lui-même a fait une trajectoire politique dans plusieurs partis d'opposition, d'abord le MDM, le Mouvement pour la démocratie au Mozambique, et ensuite la RENAMO. Il a été candidat pour la RENAMO aux élections municipale de 2023 estimant aussi avoir gagné, mais estimant ne pas avoir eu suffisamment de soutien de la part du Renamo dans la contestation des résultats qui avaient officiels, qui voyaient le Frelimo comme vainqueur de ces élections à Maputo. Et c'est un des éléments qui a fait qu'il a quitté la Renamo pour concourir aux élections de 2024 comme candidat indépendant, puis soutenu par le parti, le petit parti Podemos.
La Renamo, justement, hein, Didier Péclard, parti historique de l'opposition mozambicaine, semble disparu des radars à l'heure actuelle. On n'entend pas dans cette contestation. Pour quelles raisons ?
Alors, disparu des radars, c'est probablement un peu exagéré. Il a quand même obtenu, selon les résultats officiels, mais qui sont justement très fortement contestés, quelque chose comme 20% des voix. Donc elle n'a pas disparu, mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est de voir que c'est un autre, le candidat d'un autre parti qui deviendrait, si ce n'est le deuxième parti, le premier parti d'opposition, ou voire, selon les résultats proposés par, affirmés par le Podemos lui-même, le premier parti du pays. Donc la Renamo n'a pas complètement disparu, mais c'est vrai qu'elle est débordée, en fait, là, en tant que parti d'opposition. Et puis, il faut dire aussi que c'est difficile pour des partis qui font partie du système politique, qui siègent à l'Assemblée, de savoir quoi faire lorsque des élections sont contestées. On peut amener une contestation devant les tribunaux, mais il se trouve que dans la plupart de ces pays, où notamment c'est le cas au Mozambique, les tribunaux eux-mêmes, la Commission nationale pour les élections et les tribunaux sont plutôt contrôlés par le parti au pouvoir. Dès lors, que faire ? Est-ce qu'il faut continuer dans le processus constitutionnel ou alors sortir et contester les élections dans la rue et se mettre éventuellement hors jeu par rapport au processus démocratique ? C'est une décision qui est souvent difficile à prendre. Et Venancio Mondlane, lui, a clairement choisi de prendre la rue, de faire une contestation populaire pour voir s'il arrive à changer quelque chose.
Merci Didier Péclard. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr. Et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Le réalisateur malgache Luc Razanadzon signe son grand retour avec son tout premier long métrage Disco Africa. Entre documentaire et fiction, ce film nous entraîne à Tamatave, première ville portuaire de la Grande Île, sur les pas d'un jeune malgache en quête de son passé. Un récit sur les questionnements existentiels d'un jeune homme livré à lui-même dans une société où la loi du plus fort domine. Sarah Teto l'a vu pour nous.
C'est l'histoire de Kwame, 20 ans, qui travaille dans une mine clandestine de saphir. Une nuit, la recherche de la pierre précieuse vire au drame et le jeune homme est contraint de rentrer chez lui à Tamatave. Démarre alors une nouvelle vie faite de tiraillements entre argent facile et droiture, individualisme et éveil à une conscience politique. Le tout sur fond de répression des contestations. Paris Sambo incarne le héros du film à l'écran.
Pour moi, Kwame, c'est quelqu'un qui peut apporter ce vent de changement dont notre pays a besoin. Il représente la jeunesse de notre île et plus encore, il est le visage des laissés pour compte, des gens d'en bas, ceux que l'on ne voit pas.
Un film que son réalisateur a voulu politique. Sans pathos ni misérabilisme, Luc Razanadzon questionne autant les conditions de vie du peuple malagasse que l'utilité des luttes.
On arrive dans un contexte où chaque personne doit se poser la question, est-ce que moi je peux apporter quelque chose à cette nation et comment je vais faire pour que je prenne possession de mon destin? Parce que je pense qu'actuellement beaucoup de jeunes ne se posent pas cette question et je voulais le remettre un peu sur la table.
Porté par un jeu d'acteurs d'une incroyable justesse et une bande originale rafraîchissante, Disco Africa, une histoire malgache, est sur les écrans de la capitale jusqu'à dimanche. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Disco Africa, une histoire malgache, a déjà remporté 5 prix internationaux, dont celui de l'interprétation masculine au Festival des cinémas africains de Tarifa. C'est ainsi que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Aurèle Charlieu et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un peu plus d'une minute, selon votre zone d'écoute, vous retrouvez Anne Cantner pour le rendez-vous de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou notre session en langue portugaise.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain.
Fausse couche et postpartum, nous vous proposons de réentendre l'émission Questions de femmes que nous avions consacrée aux complications de la grossesse.
Priorité santé sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
Les inondations meurtrières en Espagne ont remis à la une les dangers du dérèglement climatique. Nous irons en Sicile, où les habitants tentent de réparer et de prévenir une autre conséquence de ce dérèglement, la sécheresse et les incendies qui ravagent chaque année des milliers d'hectares de cette île italienne.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.